Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Un tribunal d'Abidjan a condamné jeudi Yodé et Siro, un duo de chanteurs populaires en Côte d'Ivoire, à 12 mois de prison avec sursis et une amende de 5 millions de francs CFA chacun lors d'un procès en flagrant délit. Ils étaient accusés de troubles à l'ordre public et diffamation pour avoir critiqué publiquement le travail du procureur d'Abidjan, Richard Adou, lors d'un concert le week-end passé à Yopougon, un quartier populaire de la capitale économique ivoirienne. Le procureur avait requis 24 mois de prison. Ce procès est celui de la liberté de conscience, de la liberté d'expression et de pensée, a réagi leur avocat dans une salle archi-comble. La défense va faire appel. En Guinée, le président Alpha Condé sera investi pour un troisième mandat le 15 décembre, a indiqué jeudi le gouvernement guinéen, alors que l'opposition conteste toujours sa victoire à la présidentielle du 18 octobre. Son principal adversaire, Sélou Dalène Diallo, assure toujours que c'est lui qui a gagné et il dénonce une fraude. L'appel à ses partisans pour une journée ville morte, jeudi, a été suivi dans les banlieues de la capitale, mais n'a pas perturbé les activités dans le centre de Conakry, selon l'AFP. Yacouba Ouédraogo nous en parlera. Au Mali, les autorités de la transition ont communiqué jeudi la composition du futur organe législatif de la transition, le CNT, tiendra sa séance inaugurale ce samedi pour élire son président. Nous y reviendrons dans quelques instants avec notre correspondant Kassim Traoré. Au Tchad, l'Assemblée nationale, largement dominée par la majorité du président Idriss Déby Itno, au pouvoir sans partage depuis 30 ans, a adopté jeudi une révision de la Constitution, instaurant notamment un Sénat et le poste de vice-président. Selon le texte, ce dernier, nommé par le président, supplée et représente le président, exerce les pouvoirs et prérogatives qui lui sont délégués par le président. Mais en cas de vacance de la présidence de la République, les attributions du président de la République sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Selon l'opposant Saleh Kebzabou, c'est l'accaparement du pouvoir par le président Déby qui veut en avoir davantage et nomme quelqu'un qui n'aura qu'un rôle de secrétaire général de la présidence. On ne fait que reculer, a-t-il soutenu. Les États-Unis ont promis jeudi d'aider le Mozambique à lutter contre l'insurrection djihadiste qui menace la province septentrionale de Cabo Delgado, riche en ressources. Les États-Unis souhaitent approfondir leur amitié avec le Mozambique au moment où nous sommes tous les deux confrontés au défi du terrorisme, a déclaré le coordonnateur de la lutte contre le terrorisme au département d'État, Nathan Sales, à l'issue d'une rencontre à Maputo avec le président Philippe Nyusi. Le conflit, qui dure depuis 3 ans, a fait plus de 2000 morts et 500 000 personnes déplacées. Covid-19, l'apparition de nouveaux foyers épidémiques dans plusieurs régions d'Afrique du Sud fait craindre une résurgence du coronavirus que pourrait favoriser les rassemblements attendus lors des fêtes de fin d'année. Les autorités du pays d'Afrique officiellement le plus touché par le Covid-19 luttent pour maîtriser le nombre de contaminations depuis qu'une hausse a été rapportée en novembre dans les provinces voisines du Cap Oriental et du Cap Occidental. Alors que se précisent dans plusieurs pays les projets de campagne de vaccination massive, la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 1,5 million de monde dans le monde s'accélère aux États-Unis. Ils ont enregistré jeudi plus de 210 000 cas de coronavirus en une seule journée, un record absolu. Et le Brésil a franchi le seuil des 175 000 décès. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Michel Joseph. La suite de nos informations, au Mali, le président de la transition a pris des décrets pour convoquer les membres du Conseil national de la transition. Cet organe législatif est composé de 121 membres répartis entre les forces de défense et de sécurité, les représentants du mouvement du 5 juin et les regroupements de partis politiques. Le CNT tiendra sa séance inaugurale ce samedi pour élire son président de Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Des membres de l'ex-rébellion, des anciens députés, beaucoup d'amis du pouvoir déchu, des membres de l'ex-opposition comme de l'ex-majorité, des syndicalistes, des leaders religieux, pour ne pas dire toutes les sensibilités du Mali, font partie du Conseil national de transition. Modibo Sidibé, secrétaire général de l'Assemblée nationale du Mali.
Le Conseil national de la transition est convoqué en séance inaugurale le samedi 5 décembre 2020 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le doyen d'âge préside la séance jusqu'à l'élection du président du Conseil national de la transition. Au cours de la séance, le bureau d'âge invite le Conseil national de la transition à procéder à l'élection de son président.
Le colonel Malik Diao, numéro 2 de la junte, est pressenti pour prendre la tête du CNT.
Cette candidature doit être parrainée par un groupe constitué d'au moins 40 membres du Conseil national de la transition. Le président du Conseil national de la transition est élu pour la durée de la transition. Il est élu au premier tour au scrutin secret à la tribune à la majorité absolue des membres du Conseil national de la transition.
L'imam Oumarou Diarra, qui a son nom parmi les 121 membres du CNT, dit n'avoir pas fait acte de candidature et reste derrière son mouvement qui est le M5-RP. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, une journée ville morte à l'appel du principal opposant, Sélou Dalène Diallo, pour protester contre la réélection du président Alpha Condé, a été inégalement suivi jeudi à Conakry. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Tous les commerces sont restés fermés dans certains quartiers de Conakry, comme Amdalaya, Taouya, Dar es Salaam et Bambeto. En revanche, l'appel du chef de l'opposition a été presque ignoré dans le centre-ville et à Kaloum, où banques, administrations et stations-service ont fonctionné normalement. Mardi, un policier a été tué alors qu'il patrouillait à Wanindara. Il a eu quelques arrestations, mais il n'y a pas pour le moment de suspect avéré dans cette affaire de l'assassinat du jeune brigadier de police, a déclaré Albert Damantan Camara, ministre de la Sécurité. Selon des habitants, depuis mercredi, des dizaines de jeunes ont été arrêtés et conduits vers des destinations inconnues. Le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, Mamadi Kaba, a exhorté les autorités à éviter des souffrances injustes et injustifiées contre des innocents. La candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat a donné lieu à des mois de manifestations réprimées qui ont fait des dizaines de morts. M. Condé, 82 ans, a été proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle le 7 novembre.
Au Soudan, des hauts gradés de l'armée vont être interrogés par une commission d'enquête indépendante à partir de la mi-décembre concernant la dispersion d'une manifestation en juin 2019 à Khartoum, qui avait entraîné la mort d'une centaine de personnes, Claire Morin-Gibourg.
Le début des auditions est fixé au 16 décembre. La commission est présidée par Nabil Adib, un avocat des droits de l'homme nommé en octobre 2019 par le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. La répression du 3 juin est le plus sanglant épisode du mouvement de contestation du régime de l'ancien président Omar el-Béchir qui a duré 5 mois. Un comité de médecins proches des manifestants a avancé un bilan de 127 morts, mais les autorités n'ont parlé que de 71 personnes tuées. Le Conseil militaire de transition, qui a remplacé Béchir, avait regretté des erreurs après avoir demandé à ses commandants un plan pour disperser les manifestants. Une première enquête en juin 2019, ordonnée par le Conseil militaire, avait établi que des membres des RSF, les Forces de soutien rapide, une organisation paramilitaire, étaient impliqués dans le bain de sang.
Aux États-Unis, les premiers vaccins sont imminents, mais l'hiver s'annonce très sombre. L'épidémie de COVID-19 reste hors de contrôle et pourrait encore tuer plus de 450 000 personnes d'ici février, a prévenu le plus haut responsable sanitaire du pays. Le point avec Michel Joseph.
Pire que la première vague, les États-Unis ont enregistré jeudi plus de 210 000 cas de coronavirus en une seule journée. Un record absolu depuis le début de la pandémie, selon l'université Johns Hopkins. Ils ont, dans le même temps, déploré plus de 2900 morts du Covid-19, l'un des pires bilans enregistrés dans le pays, confronté à un nouveau rebond spectaculaire de l'épidémie depuis plusieurs semaines. Le total est de plus de 14,1 millions de cas et 276 000 morts. Les États-Unis ont compté hier plus de 2700 morts au quotidien et ont dépassé plus de 273 000 décès depuis le début de la pandémie. La réalité est que décembre, janvier et février seront plus difficiles, a prévenu Robert Redfield, directeur des centres de lutte contre les maladies ou CDC. Malheureusement, avant février, nous pourrions approcher les 450 000 morts, a-t-il averti. Les masques sont maintenant obligatoires dans la majorité des États américains. Les commerces, restaurants et lieux de culte restent ouverts dans de nombreux endroits et seuls les gouverneurs de la Californie et de l'Ohio ont imposé un couvre-feu. L'administration Trump prévoit d'avoir vacciné, en cas de feu vert du régulateur, près de 100 millions de personnes d'ici à la fin février. Pour convaincre de l'efficacité et donner l'exemple, les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton se disent prêts à se faire vacciner en public.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibault.
D'importantes organisations de planteurs de cacao de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, ont menacé jeudi de boycott les multinationales du chocolat qui refuseraient de payer le différentiel de revenus décent, une prime de 400 dollars par tonne de cacao en sus du prix du marché, ont déclaré quatre organisations de cacao-culteurs ayant réuni quelques 500 délégués à Yamoussoukro. Les prix mondiaux des denrées alimentaires de base, céréales, sucre, huile et produits laitiers ont atteint en novembre leur niveau le plus élevé depuis près de 6 ans, a indiqué la FAO. Une hausse vertigineuse de 14,5% par rapport à octobre est intervenue sur les huiles végétales. Aux États-Unis, entre le 22 et 28 novembre, 712 000 personnes se sont inscrites au chômage, soit 75 000 de moins que la semaine précédente, a annoncé le département du travail. Toutefois, lors de la semaine précédente, celle de Thanksgiving, le nombre d'Américains ayant touché le chômage est tombé sous la barre des 6 millions, soit une baisse de 569 000, précise le département du travail.
Sport à présent avec Yacouba Ouidraogo.
Bonjour à tous. Déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Mauritanie 2021, en raison de leur statut de finaliste, l'Ouganda et la Tanzanie ont tout de même dû se départager lors du show final du tournoi régional CECAFA des moins de 20 ans. L'Ouganda a devancé la Tanzanie, pays hôte, 4-1 pour remporter le championnat junior d'Afrique de l'Est et du Centre. Au stade Black Rhino à Arusha, la Tanzanie a atteint la finale après avoir battu le Soudan du Sud 1-0 en demi-finale, tandis que l'Ouganda a surpris le Kenya 3-1 en demi. Le Soudan du Sud termine donc troisième après avoir battu le Kenya 2-1. Et puis, ce fait insolite rectifié par la CAF, un individu se faisant passer pour Constant Omari, président de la CAF par intérim depuis la suspension d'Ahmad Ahmad, a envoyé un courrier aux différents présidents de fédération. Le courrier évoquait les prochaines élections présidentielles à la tête de la CAF et un soutien financier. Dans un communiqué, la CAF dit ne pas être l'auteur de ces emails envoyés au nom de Constant Omari et dit saisir la justice pour démanteler cette entreprise criminelle. Économiquement, il aurait été souhaitable de vendre Messi, estime le dirigeant par intérim du FC Barcelone, Carles Tousquet. La Liga impose des limites salariales et cela nous aurait aidé, a-t-il expliqué, en réponse à une question sur l'opportunité de ce transfert, ajoutant toutefois que ce sujet aurait dû faire l'objet d'un consensus dans l'encadrement technique. Par ailleurs, Tousquet, qui assure l'intérim à la tête du club depuis la démission du président Joseph Maria Bartomeu en octobre, a pratiquement écarté la possibilité d'un retour de Neymar à Barcelone, alors que le Brésilien vient de déclarer qu'il voulait de nouveau jouer avec l'Argentin. S'il vient gratuitement, ça peut s'envisager, mais si on ne vend pas,
on ne pourra pas recruter, ce ne sera pas possible à moins que le prochain président n'ait un miracle entre les mains, a-t-il dit. Le club a annoncé la semaine dernière un accord de principe sur une diminution de salaire portant sur 122 millions d'euros de rétribution fixe et sur le report pendant 3 ans des rétributions variables, soit 50 millions d'euros. Ici aux États-Unis, 48 joueurs de la NBA ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé hier la Ligue nord-américaine de basket. Il s'agit des résultats d'une série de 546 tests réalisés entre le 24 et le 30 novembre. Les Golden State Warriors, basés à San Francisco, ont annoncé retarder le début de leurs entraînements individuels d'une journée cette semaine du fait du test positif de plusieurs joueurs. Il s'agit de la première série de tests réalisés par les joueurs qui ont pour la plupart retrouvé leur équipe alors que les entraînements ont repris mardi. Les matchs de pré-saison doivent débuter le 11 décembre alors que la saison retardée à cause du prolongement de la précédente doit reprendre 2 semaines plus tard.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les attaques menées par les groupes djihadistes dans le Sahel ont été multipliées par 7 depuis 2017. Selon le Centre d'études stratégiques sur l'Afrique basé à Washington, cela est essentiellement lié à la création du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, une coalition d'organisations terroristes composée entre autres d'Ansar Din, d'Al-Mourabitoun, d'ACMI et du Front de libération du Massina d'Amadou Koufa. La montée en puissance de ce dernier explique d'ailleurs la multiplication des attaques dans le centre du Mali. Abdourahman Dia, adjoint ici à Washington, Daniel Ezenga, chercheur au Centre d'études stratégiques sur l'Afrique.
Le GSIM, ce n'est pas une entité singulière, c'est une coalition des groupes islamistes militants. Donc ça fonctionne comme une coalition ambiguë. Le GSIM est responsable de 2/3 de l'activité islamiste militante au Sahel. Ouais. Donc, par exemple, le FLM, le Front de libération du Massina, c'est probablement responsable de 3/4 de tous les événements du GSIM. Et pour nous, il faut faire une analyse qui peut faire la distinction entre tous les groupes, parce que chaque de ces groupes a sa propre hiérarchie de direction, ses objectifs, ses tactiques et son territoire.
Oui, vous mentionnez plutôt le Front de libération du Massina de Amadou Koufa comme étant certainement le plus actif en ce moment dans cette coalition. Et c'est ce qui explique un peu le fait que le centre du Mali est devenu un peu la zone chaude.
Il y a les événements violents de FLM qui ciblait les civils, excusez-moi. Pour les forces de défense et de sécurité, il y avait les problèmes de compréhension de quel groupe faire quoi, dans quelle zone. Et au centre du Mali, on a vu la violence tout augmenter de toutes les régions au Sahel. Pour les FLM, il y a les motivations idéologiques pour créer un État islamique et appliquer une version sévère de la charia. C'est ça l'objectif d'Amadou Koufa.
Et Yad Gally aujourd'hui, quelle est son influence dans ce groupe?
Yad Gally, il est à la tête de GSIM officiellement, mais en même temps, il est le dirigeant de Ansar Din et il est bien placé au nord du Mali. Et on a vu que les attaques au nord du Mali sont en train de diminuer. Et c'est parce que Yad Gally a l'influence politique au nord du Mali. Donc, il reste très bien placé entre les groupes armés séparatistes Touareg de nord du Mali. Ils ne sont pas tous les groupes islamistes militants. Et Yad Gally font la politique contre tout le monde là pour se cacher un peu, pour trouver sa sécurité au nord du Mali.
Le chercheur Daniel Ezenga juin dans la capitale américaine.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, les premières élections régionales se tiennent ce dimanche. Elles se déroulent dans un contexte sécuritaire marqué par des vagues d'explosions de bombes artisanales à Yaoundé et Douala, les deux principales villes du pays, des incursions mortelles de Boko Haram dans la région de l'extrême nord et le conflit entre des séparatistes et l'armée dans les deux régions anglophones du pays. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Afin de garantir la sécurité de ce scrutin indirect, dont le collège électoral est constitué de conseillers municipaux et de chefs traditionnels, plusieurs réunions de sécurité ont été organisées à Yaoundé et dans certains chefs-lieux de région.
Vous mettrez un accent tout particulier sur la sécurisation des électeurs, du matériel électoral ainsi que des installations et du personnel d'Elections Cameroun.
Pour la Tanganji, ministre de l'administration territoriale, face au gouverneur des régions.
Je vous demande de veiller à ce qu'il y ait une bonne synergie entre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et les populations en vue de faire efficacement face aux multiples défis sécuritaires, notamment barrer la voie aux ennemis de la République.
Le ministre de la Défense a quant à lui évalué la situation sécuritaire en compagnie du patron de la police et du directeur général de la recherche extérieure, ainsi que de certains chefs de corps des forces de défense et de sécurité. Au centre de leurs préoccupations, les phénomènes d'enlèvement ou encore d'engins explosifs improvisés. Nasseri Paul Béa est le gouverneur de la région du centre, dont Yaoundé est le chef-lieu.
Les patrons de la police et la gendarmerie ont donc promis d'ajouter des éléments pendant la période électorale. Et nous aussi, nous allons encourager les autres forces. Il y a aussi les gardes de sécurité privés. Et on va les mettre aussi en contribution pendant cette période.
Mais Denis Kemelo, secrétaire national à la communication du Social Democratic Front, le SDF, un parti de l'opposition dont le fief se trouve en zone anglophone, pense que l'efficacité des mesures sécuritaires annoncées par le gouvernement, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ne sont pas certaines. Au cours du mois de novembre, au moins 8 personnes ont été tuées et 4 enlevées dans la région de l'extrême nord par les éléments de Boko Haram. Les assassinats de civils et des éléments de forces de défense et de sécurité ont été également enregistrés en zone anglophone.
Pour les élections de dimanche prochain, le risque existe. Il faut prendre un certain nombre de dispositions, mais il ne faut pas non plus verser dans une forme d'alarmisme.
Raoul Sumotaoué, spécialiste des questions de sécurité et enseignant à l'université de Yaoundé 1.
L'on pourrait craindre des actions de représailles des sécessionnistes contre des membres du collège électoral. Les sécessionnistes en Bagoun promeuvent une sorte de boycott actif.
Les taux de participation au scrutin organisé depuis 2018 au Cameroun ont toujours été très faibles dans la partie anglophone du pays, consécutive à la crise qui y prévaut depuis novembre 2016. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
La profession est jusqu'ici dominée par les hommes, mais au Nigeria, la mécanicienne Favour Okonwo est la patronne de l'atelier automobile au village de mécaniciens de Zuba, à la périphérie d'Abuja, où s'est rendu notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, pour voir comment elle travaille avec son équipe composée d'hommes et de femmes.
Nous sommes ici dans le village des mécaniciens de Zuba, situé à la périphérie d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Dans ce village se trouve un garage mécanique où les femmes dirigent les travaux de réparation de voitures de tout modèle. Favour Okonwo, une mécanicienne, est propriétaire de ce garage. Et pour elle, exercer sa profession est un rêve devenu réalité, ayant nourri l'intérêt depuis son adolescence à l'école secondaire. Les commentaires dénigrants des gens sur la mécanique n'ont pas découragé ni fait changer d'avis à Favour Okonwo.
Beaucoup de choses m'ont motivé à aimer cette profession qui est jusqu'ici dominée par des hommes. Même lorsque j'étais encore enfant et que je grandissais, je faisais déjà quelques travaux techniques de réparation à la maison quand notre poste de radio tombait en panne ou que nous avions une panne d'électricité à la maison. Je réparais tout. Ma maman avait remarqué cela.
Originaire d'Avka, dans l'état d'Anambra, et mère de 6 enfants, Madame Rock, comme on l'appelle affectueusement, a commencé son aventure au collège technique de sa ville natale. Elle a également acquis par la suite des connaissances supplémentaires dans la profession auprès de certaines institutions avant de venir s'installer à Zouba. Avec près de 18 années d'expérience dans son métier, elle a fini par épouser un mécanicien automobile qui, selon elle, lui a donné tous les encouragements et les moyens dont elle a besoin pour progresser dans sa profession. Valentine Okonko apprécie beaucoup les efforts fournis par sa femme dans la profession qu'il a lui-même formée.
She's very devoted. She's doing very well.
Elle est très déterminée, elle fait du bon travail. Il ne suffit pas seulement de former une personne dans une profession, mais ses efforts pour retenir et appliquer tout ce que vous lui avez appris, elle apprend très vite. En fait, elle est pratiquement devenue une ingénieure. Elle répare toutes sortes de voitures sophistiquées.
Elle a déjà formé 2 filles dans la profession et elle compte actuellement 12 stagiaires, hommes et femmes au total. Odo Philomena, âgée de 18 ans, est l'une des stagiaires.
Je suis là pour réaliser mes rêves. Je sais bien qu'un jour, je serai plus que ma patronne dans cette profession. Je deviendrai une grande mécanicienne dans l'avenir. Je prie que Dieu m'aide et avec la foi, je vais atteindre cet objectif.
Fevo Okonko prévoit de déménager sur un site nouvellement acquis qui, selon elle, est plus grand et plus accommodant pour ses travaux. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Lutte contre le VIH-Sida, la sensibilisation autour de cette pandémie est en souffrance dans la capitale Kinshasa, alors que cette maladie continue à sévir en silence. Le constat est de notre correspondant dans la capitale congolaise, Valdo Simon Myamba.
En RDC, il a été prouvé, chiffre à l'appui, que l'accès aux ARV est bien évident sur l'ensemble du territoire national. Mais seulement, le VIH-Sida est d'une obligation à éviter qu'à traiter, d'où le besoin en sensibilisation sur l'existence de cette pandémie. Malheureusement, en cette année 2020, cette sensibilisation connaît quelques difficultés, notamment à cause de la COVID-19, reconnaît Aimé Mboyo, directeur du programme national de lutte contre le VIH-Sida.
Pour cette année 2020, avec la pandémie à COVID-19, on a tendance à oublier un peu le VIH, alors que malheureusement, ça continue à être une préoccupation majeure, un problème de santé publique pour lequel il faut absolument rester alerte que nous ne sommes pas encore arrivés au bout.
En ces mois de décembre, les organisations de lutte contre le VIH-Sida semblent s'y rattraper, ça et là, constate Roussel Mounansi, médecin en spécialisation aux cliniques universitaires de Kinshasa.
Je vous avoue que la sensibilisation a été effective dans certains territoires de la ville. J'ai remarqué certaines caravanes motorisées. Mais quant à moi, je pense qu'il ne suffit pas seulement de faire sortir des banderoles, il faut élargir.
Mais cette sensibilisation ne devait pas que tourner autour de la journée mondiale et du mois de décembre, suggère Mounansi.
Il ne faut pas seulement attendre la date de la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. La sensibilisation doit être permanente. On doit la pérenniser, continuer. Ça doit être une opération continue pour que les gens se rendent compte qu'il y a une maladie qui nous guette et nous devons l'éviter.
Hors de ses 27 ans de pratique médicale, François Loukemba, responsable d'un centre de santé ONG des personnes vivant avec handicap, l'accès à l'information sur le VIH-Sida n'y préoccupe presque plus les jeunes Kinois.
Si la jeunesse, il y a une petite perturbation, comme le cas de notre millier, les jeunes s'en foutent, puisque c'est un millier en difficulté. Il y a une insuffisance parfois de communication.
Comparativement à la COVID-19 et au paludisme, la sensibilisation sur le VIH-Sida est de moins en moins visible, une situation qui inquiète Joseph Masaka, enseignant en administration et en soins infirmiers.
Tout le monde est vraiment sensibilisé pour lutter contre le COVID-19 et le paludisme. Nous avons vu la distribution des moustiquaires, il y a même des antimalariens que le gouvernement est en train de distribuer un peu partout, sauf le sida qui est un peu négligé. On n'a plus cette volonté-là comme c'était les années 90.
Tout compte fait, à Kinshasa, la sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida est en deçà des attentes. Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
Voilà. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidounia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.